Alors Jacques Revan, bonjour.
Bonjour à la radio
RVR, vous êtes photographe, journaliste. Le photoclub de Roanne vous a invité à l'occasion de leur 120e anniversaire, car une grande exposition débute aujourd'hui, le 16 mai, et pour 3 semaines à l'espace congrès de Roanne, donc derrière l'hôtel de ville. Quel est votre sentiment sur cette exposition?
Mon sentiment déjà, c'est que je remercie les Roannais de m'avoir invité, parce que tout simplement, moi je suis Rouennais d'origine, mais je ne vis pas à Rouen, je vis dans la Bourgogne. Et donc, le fait de venir ici, ça, évidemment, ça me touche beaucoup parce que ça me rappelle plein d'images. Et ces images, eh bien, j'en ai déjà vu quelques-unes sur les 6 mèzes de cette exposition qui est, entre parenthèses, superbe. Je le dis sans arrière-pensée et sans superlatif parce que souvent, quand on va dans des expos photos, il y a beaucoup de choses qui pêchent pour mettre une image en valeur, à savoir l'éclairage, les reflets, la partie de présentation, c'est-à-dire les photos sont présentées plus ou moins dans des cadres, alors que là, eh bien, on a tout. Et en plus, on a le recul, c'est-à-dire qu'on peut regarder l'image dans très très bonnes conditions, parce que c'est très bien éclairé. Il y a des super 6 mèzes qui permettent d'accrocher des cadres. Il y a aussi des passe-partout ou des Marie-Louise, ça dépend comment on donne le terme, mais c'est-à-dire la présentation de la photographie agrandie en grand format, qui est présentée avec un petit cadre à l'intérieur d'un cadre, et ça s'appelle un passe-partout ou une Marie-Louise, et ça c'est très très bien fait. Je dis que le photoclub de Roanne a beaucoup de moyens, parce que sincèrement, c'est rare. Pour être allé quand même dans pas mal d'endroits d'exposition, ici c'est vaste en plus, c'est très grand, ça c'est assez surprenant, c'est très lumineux. Les documents choisis, ces 120 documents choisis sur je crois plus de 1200 photos, c'est vraiment une belle histoire et une œuvre collective, parce que imaginons que préparer, choisir, tirer les photos, c'est un travail extraordinaire de pouvoir arriver au bout de son projet. Et moi, je dis bravo.
Et ce choix, justement, de pas avoir fait une chronologie, c'est pas mal aussi.
Moi, je pense que la chronologie, c'est pas... quand on veut montrer, justement, des aspects comme ça sur 120 ans, on imagine qu'une chronologie, c'est impossible. Parce qu'il y a des photos il y a plus de photos qui ont été faites à telle époque qu'à d'autres. Donc, on n'a pas forcément la possibilité de tout montrer. Et qui plus est, montrer dans la chronologie de A jusqu'à Z, ça paraît complètement difficile. Et puis, c'est pas forcément une bonne chose parce que ça sert à rien de voir les choses comme ça de A jusqu'à Z. Il vaut mieux avoir le choc visuel, avoir la réflexion d'une image, ce qu'elle vous renvoie. Et puis, certains se disent, oui, t'as vu, c'était à l'époque où j'étais gamin, mon grand-père a connu ça, mon père travaillait là, etc., etc. Il n'y a pas besoin d'avoir de chronologie.
Comment en êtes-vous venu à la photographie?
J'ai appris le métier de le photographe chez mon père à Roanne, 5 rue Jean Jaurès, pendant 3 ans, de 1965 à 1968. Après, j'ai quitté Roanne. Et donc, c'est à cette époque-là que j'ai eu envie déjà de m'intéresser aux autres photographes que d'abord à mon père. En premier, bien sûr, à mon oncle, qui était aussi photographe à Lyon, enfin qui était photographe à Lyon. Et ensuite, les choses se sont enchaînées. J'ai tout de suite eu envie de mettre en boîte les photographes que je rencontrais. Et pendant plus de 40 ans, ce cheminement et aussi quelques anecdotes, bien entendu, de ces rencontres.
C'est votre spécialité?
Laquelle?
De photographier les photographes.
C'était pas ma spécialité. Ça peut être incongru de penser ça, mais c'est parce que j'ai ressenti cette envie d'approcher, je dis bien, des photographes et de différents domaines, différentes spécialités. Ça c'est très important. C'est pas que les photographes que l'on voit tout le temps. C'est aussi des photographes qui sont plus mal connus parce que leur spécialité est mal connue. Par exemple, dans le monde de la médecine. Et j'ai pu approcher toutes ces personnes et un petit peu donc de les mettre en image dans leur métier, dans leur travail. Alors évidemment, j'ai eu la chance parce que dans mon cheminement professionnel, bien entendu, je n'ai pas été que photographe. J'ai été caméraman, reporter caméraman à France 3 à Lyon pendant quelques années. Et ensuite, je suis parti à Dijon comme rédacteur, puisque j'ai remis en cause mes acquis visuels pour plutôt me diriger vers le rédactionnel. Ensuite, j'ai été journaliste spécialisé, enfin grand reporter en 1996 jusqu'en 2008, où là, j'ai pu partir à droite à gauche. Et c'est au cours de tout ce périple professionnel que j'ai pu rencontrer ces photographes, qui plus est parce que j'ai été aussi lauréat de la Fondation nationale de la photographie en 1980, et qui fait que, bien entendu, je suis allé au contact des photographes parce que c'était l'occasion, etc.
Ils se laissent facilement photographier, vos confrères ?
Oui, sauf un. Ce photographe que tout le monde connaît bien, enfin connaît bien, tout le monde connaît par son nom, Cartier-Bresson, est un photographe qui n'aimait pas qu'on le photographie. Et il y a des anecdotes où Cartier-Bresson, quand il voyait quelqu'un qui photographiait, il courait après. C'est quand même un paradoxe et un comble pour un photographe qui lui photographiait, bien entendu, sans venir s'expliquer. Mais bref, c'était un personnage, ce Cartier-Bresson, cet Henri Cartier-Bresson. Et j'ai pu le photographier parce que on m'a dit qu'il allait passer devant moi à 3-4 mètres. On me l'a dit peut-être, je sais pas, 5 minutes avant, en me disant « Tu vas surtout pas le photographier parce que tu sais qu'il aime pas ça. » Alors je dis « Ah bon, non, faut pas. » La personne qui m'a dit ça, c'était un ami. Il savait que j'avais toujours mon appareil photo avec moi. Et je me demande, en fait, j'ai jamais su vraiment, mais je pense qu'au contraire, cet ami qui portait le même prénom que moi, Jacques, m'a dit ça, effectivement, pas pour qu'on le photographie pas, mais pour qu'on le photographie, justement. Ça, c'est... Oui, je pense que c'est ça. Parce que s'il ne me l'avait pas dit, je n'aurais pas su qu'il passait devant moi. Pourquoi ? Parce que Cartier-Bresson, physiquement, je le voyais sur les photos, mais vous savez, le temps passe et on change. Et je n'aurais pas été capable de le reconnaître, surtout qu'il était suivi de sa compagne Martine Franck et d'Hervé Gloagen, un autre grand photographe. Et il passait devant moi à 4 mètres, donc je n'ai pas pu m'empêcher de faire 3 photos argentiques, parce qu'à l'époque, c'était bien sûr de l'argentique, on ne pensait pas à autre chose.
Qu'est-ce qu'il en a dit, qui, de ces photos ?
Cartier-Bresson ?
Oui, oui.
Ah, il ne les a jamais vus.
Ah, mais il ne les a jamais vus.
Ah non.
Eh,
non. Alors, en revanche, je lui ai envoyé le deuxième bouquin que j'ai fait sur les mineurs de la Loire. Je lui ai envoyé à son adresse, mais je n'ai jamais eu de réponse. Je sais pas si, j'espère qu'il a reçu le bouquin, enfin, à l'époque. Je sais pas. Enfin bon, peu importe, j'avais pas rendu son image, mais je m'étais dit, il faut qu'il sache que, c'était normal que je le photographie, puis je lui rende ensuite un peu quelque chose, quoi.
Avec Robert Doisneau, ça s'est passé de façon plus sympathique.
Ah, totalement, parce que Robert Doisneau est venu à Rouen, et puis j'ai rencontré plein de fois Doisneau, on était assez proches l'un de l'autre sur le plan professionnel, et puis sur le plan personnel aussi. Et j'ai eu la chance de le rencontrer dans les années 76. Au début, après je l'ai rencontré plusieurs fois, à Rouen, à Dijon, à Paris, etc. Et j'ai pu faire une photo, en fait cette photo il me l'a donnée, quoi, en quelque sorte, cette image. J'étais parti un jour chez lui à Montrouge, dans son lieu, dans sa maison, dans son labo, dans l'endroit où il archivait ses photos, etc., enfin, dans son atelier, en discutant comme ça, parce qu'on parlait des films, des papiers, puisqu'à l'époque j'étais chez Ilford. J'étais photographe de la société Ilford. Et en parlant comme ça, en discutant, il me dit « Tu veux voir mon labo ?» Ah ben, je dis « Écoute, oui, pas de problème, hein, au contraire. » J'avais mon Leica, celui qui est là avec moi, parce qu'il ne me lâche jamais. Je l'avais avec moi, ce Leica, et il était chargé, heureusement. J'ai fait trois photos. Je suis rentré dans le labo, j'ai vu un petit labo, grand, plus petit que le studio, là. Et puis cette photo, il m'a regardé. On voyait vraiment qu'il avait envie de me donner son image. Et je sais que je suis le seul à avoir photographié Doisneau dans son labo. Donc, et cette photo est dans mon ouvrage, bien sûr. Elle l'est depuis peu de temps, parce que toutes les photos qui sont dans cet ouvrage n'ont jamais été publiées. Elles ont été publiées que pour l'ouvrage. Donc, 40 ans de photographie est révélée, c'est le cas de dire, fin décembre, début janvier 2015. Donc ces photos sont exclusives, sont uniques, il n'y en a pas d'autres, quoi. Quels que soient d'ailleurs les photographes photographiés dans cet ouvrage, et en particulier celle de Doisneau.
Alors j'ai vu un cliché dans votre livre qui m'a interpellé, c'est Raymond Depardon à la Brasserie Georges.
Oui.
À Lyon, oui. Les yeux dans le vague, l'air triste, il attend son repas. Je l'ai trouvé triste. Vous vous souvenez de cette photo ?
Oh oui, parce que j'étais donc... on est allé manger tous les deux à la Brasserie Georges, en couple de photographes. Et puis on parlait parce que j'avais présenté son film à Lyon quand il a fait son film Fait divers. Je ne sais pas si vous vous rappelez du film sur la police. etc. Donc, j'avais été chargé avec un, je me rappellerai toujours, avec un syndicat, un responsable d'un syndicat de police. Et moi, à l'époque, j'étais syndicaliste journaliste, au syndicat national des journalistes. Et tous les deux, on est allés présenter le film dans la banlieue lyonnaise. Et puis, bon, on s'est revus après. Et on s'est vus, parce que lui n'était pas présent ce jour-là pour la présentation de son film. On nous avait chargé, tous les deux. Deux personnes dont je viens de parler, de présenter ce film, et on est allé casser la croûte ensemble à la Brice et Georges. Alors, je l'avais rencontré déjà bien avant, en 79, à l'époque où j'étais photographe chez Ilford, puisqu'il était venu pour les 10 ans de l'agence Gamma au Salon de la Photo à Paris. Là, j'ai fait une photo qui est d'ailleurs dans l'ouvrage. Et puis ensuite, on s'est vu, là, c'est en 82. Et puis on va se revoir après. Moi, pour être très précis, répondre à votre question, je me souviens très bien de cette image. On était assis tous les deux en attendant à manger. Puis moi, j'avais toujours pareil mon appareil photo, ça m'a jamais lâché. Et j'ai fait cette photo, voilà. Et à ce moment-là, il devait penser à plein de choses, peut-être à son voyage, son prochain voyage, ou celui qu'il venait de faire. Bon, voilà, c'était. On a échangé sur plein de choses.
Et là, vous faites une seule prise.
Ah oui. Ah ben non, mais là on n'est pas numérique. Hein. Là, on fait deux photos, on fait deux déclics, quoi, si vous préférez, puis c'est tout. Quoi. Et après, l'appareil, on le met dans son sac. Hein.
Qu'est-ce qui différencie Doisneau d'un Cartier-Bresson, d'un Willy Ronis?
Écoutez, je ne les connais quand même pas vraiment personnellement tous, bien loin de là. Ça serait très prétentieux de ma part de dire ça. Je pense que le photographe, quel qu'il soit, a beaucoup de réflexions très individuelles, déjà. Il a sa pensée, sa manière de sentir, sa manière de regarder, son approche en fonction de l'environnement, des éléments, de ce qu'il veut faire ou de ce qu'il rencontre, parce que la photo, c'est aussi les rencontres. Hein. En ce qui me concerne, c'est souvent les rencontres, enfin, entre parenthèses. Mais qu'est-ce qui différencie tel ou tel photographe? Sincèrement, je pense que la génération des Doisneau, Cartier-Bresson, Ronis, Lartigue, Le Quérec, tout ça, sont des gens qui ont toujours été intéressés par l'homme. C'est une démarche, je dirais, entre guillemets, humaniste. C'est une école que j'épouse totalement, bien entendu. Hein. Je fais partie de cette école-là, si on peut se permettre de le dire. En revanche, d'autres photographes sont plus des photographes qui sont touchés par la technique, par l'aspect scientifique. Ils sont moins dirigés sur l'humain. Par exemple, photographe médical, je l'ai été pendant 5 ans, donc je peux en parler un petit peu. C'est sûr qu'on a d'autres objectifs, parce que c'est très scientifique. Donc là, on a l'homme en face de nous, mais pas toujours. C'est des fois beaucoup de choses qui se passent en dehors du patient, en fait.
Mais ces photographes humanistes, ils ont quand même une technique. Ils prennent une photo comme c'est composé, c'est travaillé, c'est pas pris sur le vif. Tout à l'heure, vous disiez, ouais, je prends un déclic, deux déclics, mais bon, Doisneau, on sait que le baiser de l'hôtel de ville, par exemple, on sait que c'est pas le fruit du hasard. Enfin, je sais
oui.
pas.
Qu'est-ce que vous... Enfin, ça a toujours été une grande discussion pour cette histoire du baiser. Je n'ai jamais posé la question, pour être très franc avec vous. Je n'ai jamais posé la question parce que je pense qu'il y avait déjà trop de gens qui lui avaient posé la question. C'est pas du tout le genre de chose qui m'intéressait de savoir ou pas savoir. J'aurais pu bien sûr lui poser la question. Mais bon, d'autant qu'il est venu à Roanne, il est venu chez mes beaux-parents, on était dans un autre cadre. Il est venu dans une petite, à l'époque, dans une librairie qui n'existe plus à Roanne, qui s'appelait la bouquinerie, entre parenthèses. Et donc moi, j'ai jamais posé de questions personnelles aux photographes. On a toujours discuté sur nos vies, mais pas forcément sur la manière de photographier. Ça peut paraître bizarre, hein, parce qu'on a notre personnalité, notre caractère, mais on n'a pas forcément envie de se mettre à nu systématiquement. Vous voyez, moi, mon appareil photo, je vais pas jouer le bagel, mais moi, pour moi, c'est mon appareil anti-stress. Je vis avec parce que j'en ai besoin. C'est ma vie, la photo. Mais pour d'autres, c'est pas forcément ça. Pour d'autres, c'est un outil, c'est un moyen de s'exprimer, mais c'est pas forcément aussi quelque chose qui vous suit comme un fil à la patte, quoi. Et la façon aussi d'approcher par le cadrage, par la technique. Ça, c'est fonction de chacun, c'est fonction de ce qu'on ressent. C'est...
Quelle est la différence entre entre le reporter photographe, le reporter journaliste et le photographe comme Willy Ronis qui va composer des natures mortes, des portraits.
Là, on est d'accord. Là, il y a des fois, dans le reportage, par définition, on va devoir raconter une histoire. Si on doit raconter une histoire en image, en photographie, on doit automatiquement être très sensible à la personne ou à l'événement que l'on couvre, avec tout son environnement. Donc on rentre en ligne de compte le cadre, rentre en ligne de compte les déplacements des personnes dans ce cadre, la situation par rapport à l'événement, qu'est-ce que l'on a décidé de montrer, parce que la photographie c'est subjectif, hein, c'est propre à chacun, il y a mille façons de voir un événement, donc il y a pas de vérité dans l'événement, c'est vraiment à travers l'œil du photographe, hein, et un œil de photographe il est différent chaque fois. Donc pour répondre à votre question, la photographie c'est le prolongement de soi-même dans sa pensée, dans sa réflexion et dans le reportage de ce que l'on veut écrire, de ce que l'on veut rapporter, de ce que l'on a décidé ou son rédacteur en chef ou son agence a demandé de faire. Parce que quand vous partez en reportage, on vous dit voilà, il y a ça et ça à faire, il faudra aller à tel endroit. Déjà, ça canalise les idées, ça canalise la réflexion, parce qu'il faut rapporter des choses qui se passent. Après, faut choisir des moments, des lieux, etc.
Alors, qu'est-ce qu'il doit y avoir de plus dans une belle photo qu'un magazine ou qu'une agence de presse va retenir?
Ça dépend. Vous savez, la photographie, c'est quelque chose de parfois surprenant. Il y a une photo, j'avais toujours mon appareil photo, y compris au service militaire, avec moi. Je photographie. Vous savez que à l'époque, au service militaire, j'ai fait, comme tout le monde, un certain nombre de mois. Et j'ai fait mes classes. Et pendant les classes, il y a toujours une photo qui est faite par un photographe officiel du groupe, du squadron, du bataillon, des machins. Enfin bref, ceux qui nous écoutent et qui sont jeunes, ils vont pas bien comprendre, mais c'est pas grave. Tout ça pour dire que bon, il y a une photo de groupe quoi, qui est faite pour souvenir. Et pendant les classes, ça dure pendant un bon mois. On a cette photo et ça va très vite. On fait placer comme à l'école les bidas, les soldats les uns derrière les autres, les uns à côté des autres en ligne, et on fait la photo de groupe. Et à ce moment-là. Comme j'avais toujours mon petit 24-36 avec moi, j'ai dit au responsable, au lieutenant, j'ai dit, est-ce que je peux faire une photo? J'avais le truc dans ma poche. Il me dit, ouais, allez, vas-y, quoi, allez-y. Donc j'ai pris la place du photographe. Il a fait sa photo officielle. J'ai pris la place du photographe et j'ai fait deux photos. Ça va très vite. Et ces deux photos, je les ai développées que 3 mois plus tard, parce que j'avais fini mes classes. Je les ai développées 3 mois plus tard et je me suis j'étais incroyablement surpris de voir le contenu des images parce que quand j'ai fait la photo, je m'en suis même pas rendu compte pour vous dire que ça va très vite. J'ai vu après, en tirant la photo sur le négatif, qu'il y avait des copains qui faisaient les clowns, qui faisaient les imbéciles. Et ça, je l'avais pas vu au moment de la prise de vue. Je l'ai vu qu'après. Et c'est ceux qui sont sur la photo n'ont jamais vu cette photo. C'est ça la photographie, c'est-à-dire que vous pensez pas forcément tout ce que vous allez trouver dans une image après. Et ça pour moi, alors pour répondre à votre question, hein, pour moi c'est une image forte parce que elle raconte une histoire que j'aurais jamais imaginée. Et en fait, les deux responsables qui sont devant au premier plan, le lieutenant et son adjoint, ils ont jamais rien vu. Ils ont jamais su que les deux qui étaient à côté d'eux faisaient les clowns, mais vraiment les clowns, quoi, pas simplement des risettes en étant tout tordu, etc. Ça paraît vraisemblable quand on voit la photo, parce que c'est ceux qui sont à côté du responsable, puis derrière, il y en a qui vous mettent les doigts, enfin bon. Bref, tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette photo, pour moi, pour aller dans votre sens, elle est pas belle, c'est pas une question de beauté, elle est forte, parce que elle a une force en elle qui, si on regarde cette photo, on se dit qu'il devait se passer quand même pas mal de choses à cette époque. On était en 68 aussi, il faut remplacer dans le contexte.
Alors, je vous disais ça parce que, bon, votre livre s'appelle de l'argentique au numérique. Alors, avec l'apparition de numérique, des nouvelles technologies, d'Internet, on a l'impression que tout le monde peut faire des photos, tout le monde en fait, que c'est très facile, que tout le monde peut être déclaré du jour au lendemain photographe avec tout ce qu'on voit. Alors, donc, qu'est-ce qui a changé? Surtout, quelles sont les qualités, en fait, requises pour faire des bonnes photos?
Écoutez, moi, je crois que effectivement, ce que l'on est en train de vivre en ce moment, depuis quelques années, depuis que le numérique est arrivé sur le marché, je dis bien depuis qu'il est arrivé sur le marché, parce que, en fait, le numérique, il existe depuis déjà pas mal de temps. C'est simplement qu'il était resté secret en particulier chez Kodak, puisque le numérique a été découvert en 1975, je le raconte dans mon ouvrage, par un jeune ingénieur de chez Kodak Rochester, et c'est resté secret jusqu'en 2001, date à laquelle ils ont publié la découverte qui avait été faite en 1975.
Ouais, j'ai vu ça dans votre livre, d'ailleurs. Voilà. C'est hallucinant qu'une entreprise comme Kodak n'ait pas pris le virage et gardé secret.
Mais c'est-à-dire qu'en fait, ils ont quand même fait leur travail sur le plan numérique, mais ça a été fait sous un autre plan, mais d'une autre manière. Mais pendant ce temps-là, tous les autres ont, bien entendu, ont avancé, parce qu'une fois qu'on a découvert que les capteurs permettaient d'enregistrer des images à travers un système après, il y en a d'autres qui s'y sont mis, d'accord? Bon, mais tout ça pour vous dire, pour répondre un peu à cette problématique qui consiste à dire aujourd'hui tout le monde fait de la photo, tout le monde peut en faire avec son téléphone, avec son iPhone, avec son iPad, avec bref, avec différents outils.
Et puis avec Photoshop aussi, c'est ça que je voulais dire. On prend des photos, on corrige
bien sûr.
Tout.
Alors moi, je corrige rien, je précise tout de suite, même en numérique. Je sais pas faire. Enfin, si, je sais faire, mais je fais pas. Et donc, là, on est dans une autre problématique. On a la problématique de savoir qu'est-ce que l'on a besoin de faire, de montrer ou de raconter quand on a un objet qui permet de faire des photos. On peut raconter une histoire avec un téléphone. On peut raconter une histoire avec un téléphone, bien sûr, à condition de réfléchir et de mettre en œuvre ce que l'on veut raconter. Parce que on peut très bien, avec un téléphone, faire plusieurs photos qui permettront de dire, voilà, il s'est passé ça et ça et ça. Alors, techniquement, c'est pas forcément le summum du summum, quoique, puisque maintenant, on peut envoyer des images à l'autre bout du monde en même temps que l'on cause. Donc, je dirais que la photographie, tant mieux si aujourd'hui, justement, elle se vulgarise, entre guillemets, tant mieux parce que vous le voyez autour de vous, de gens qui font de la photo dans tous les domaines, par tous les moyens, à tous les instants, etc. Tant mieux, je veux dire, bon, il y a eu le Polaroid durant une époque, il existe toujours un peu, mais bon, parce qu'on voulait de la photo rapide. Tant mieux, si ça permet aux gens de s'exprimer. La grande mode, c'est le selfie, pourquoi pas, mais vous savez, c'est comme tout, hein, à un moment on va s'en lasser de ça. Ça passera, dans 3 ans il y aura beaucoup de moins de monde, peut-être il y aura peut-être autre chose, attention, il y aura
peut-être... Vous semblez pas aimer tellement les selfies?
Non, non, parce que écoutez, je peux pas dire ça, parce que dans ma vie j'ai dû faire soyons très honnêtes, j'ai dû faire 4 ou 5 autoportraits. C'est ce qu'on appelle un selfie, excusez-moi. Se photographier soi-même, c'est un peu ça, quoi. Sauf que là, c'est en groupe, en couple, en main, enfin bref. On avait plutôt l'habitude. Et la photo selfie, c'est la photo au retardement. Vous faites un groupe au retardement, c'est quoi? Ça s'appelle pas selfie, mais c'en est un, d'accord? Bon, donc tout ça, tout le monde en a fait de ça. Enfin, tout le monde, beaucoup de gens ont fait des photos. Donc, c'est pas que j'aime pas, mais c'est que c'est devenu... c'est devenu anecdotique, qui ne fait pas son selfie, je dirais. Vous voyez, maintenant c'est plutôt ça. Dans quelques endroits où vous alliez, vous avez des gens qui font des selfies. Alors je l'ai vu encore récemment au Parlement européen, puisque j'étais pour un congrès de journalistes de sport à Strasbourg là ces 3 derniers jours. On se photographie partout. Alors, tu vois, on est au Parlement européen avec les drapeaux, crac-crac, machin.
Bon. Oui, alors, justement, la banalisation de l'image, ça tue un peu le côté artistique de la photographie.
Mais écoutez, ça peut être ça, ça peut être une résultante, mais ce que je pense, c'est que à travers ce phénomène, il y a aussi un certain nombre de personnes qui peuvent sortir du lot pour raconter vraiment des histoires avec leur appareil photo. C'est-à-dire vraiment avoir pensé, cadré, etc. Pas avoir pris l'objet, cet outil-là comme un objet simple. Et d'avoir pensé avec, d'avoir réfléchi, d'avoir construit. Et ça, c'est ça l'intérêt. Et ce qu'il faut peut-être dire aussi, je voudrais quand même le souligner, c'est que ce dont je me suis rendu compte depuis quelques années, en particulier en faisant le bilan en écrivant cet ouvrage, il m'a fallu à peu près 7 mois pour écrire l'ouvrage, c'est que grâce au numérique, eh bien, il y a beaucoup plus de dames, de jeunes femmes qui font de la photo. Et ça m'a beaucoup surpris parce que j'ai rencontré, et puis quand je dis femmes, jeunes femmes, et puis professionnelles, femmes, quand j'ai fait mes premières photos à l'époque de photographe, j'ai rencontré Yvette Troipoux à Paris, j'ai rencontré Janine Niepce, j'ai rencontré d'autres femmes reporters, mais très peu. Alors qu'aujourd'hui, j'en rencontre plein. J'en ai rencontré plein ces dernières années, et des femmes qui sont sur les terrains de foot avec des objectifs qui pèsent très lourd, des tels objectifs, hein, et qui sont des spécialistes de la photographie de sport, et des femmes reporters, etc. Et croyez-moi, c'est quand même le numérique qui a permis ça. Parce qu'avant, il n'y avait pas tant de femmes qui étaient photographes. Je trouve que là, il y a eu un éclatement. Alors pourquoi, j'ai pas encore compris pourquoi. Est-ce que c'est parce que la technologie leur a permis de mieux s'exprimer, moins compliqué sur le plan du traitement de l'image après, au développement, au tirage, moins passionné par, ou du moins moins attiré par cet aspect chimie de la photographie? Ça peut être déjà un élément de réponse. Et que là, en numérique, eh bien, on les voit d'ailleurs, ces jeunes femmes, elles regardent comme vous, comme moi, sur le dos de l'appareil, la photo quand elle a été faite. Donc, ça leur a permis d'avoir la maîtrise à elle aussi de l'image. Et ça, pour moi, ça, c'est très, très important et c'est très positif. Parce que, d'ailleurs, dans mon bouquin, il y a une image, c'est une image qui a valeur d'anecdote. On voit deux hommes et deux femmes qui sont deux hommes l'un à côté de l'autre, deux femmes l'un à côté de l'autre. Et puis, les appareils photos, c'est les femmes qui les ont. Puis, pas des petits appareils, hein, des grands, pas des petits trucs, de rien du tout, avec des gros objectifs. Et la question, c'est qui photographie? Ben oui, c'est pas les mecs, c'est les nanas. Donc, c'est, je trouve que c'est vachement bien que ça soit arrivé, ça, parce que, et je dirais même, alors en poussant vraiment à l'excès, je me demande même s'il n'y a pas plus de femmes maintenant qui font des photos que d'hommes, vous voyez?
Parce que numérique ou argentique, la technique doit s'apprendre toujours.
Oui, mais la technique, c'est pas une fin en soi. Et surtout quand on est en numérique. Vous savez, aujourd'hui, numérique, vous mettez sur le A, automatique, et vous faites des photos, vous faites des bonnes photos, techniquement, après le jugement, tout ça, c'est autre chose, hein. Mais vous faites de la photo, vous faites de l'image, vous fabriquez des images. Donc, après, c'est la sensibilité des personnes qui s'expriment, c'est leur personnage, c'est leur caractère, c'est leur culture, etc. Ça, c'est universel, hein, homme, femme, peu importe. Mais cet aspect, ce moyen de communiquer leur a été favorable. Et moi, je trouve ça très bien. Je veux dire, vraiment, c'est très bien, quoi.
Jacques Revon, merci d'avoir pris sur votre temps pour venir nous parler dans les studios.
Il n'y a pas de temps. La passion, ouais. C'est quelque chose qu'on doit partager, hein, et transmettre surtout.
C'était Jacques Revon, auteur du livre « Une histoire de la photographie, de l'argentique au numérique » à Roanne à l'occasion de la grande expo photo visible à l'espace congrès derrière l'hôtel de ville de Roanne jusqu'au 31 mai de 15h à 19h.